Donc nous sommes à la Japan Expo et cette fois c'est en compagnie de Grégoire Labaze. Bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Tout à fait, je suis le responsable de la communication des éditions Ototo, Ofelb, Taifu et Nihoniba. Et donc je me charge de tout ce qui est côté community managing, donc gestion des relations influenceurs, relations presse, relations... un peu de tout ça quoi.
Est-ce que c'est pas compliqué de gérer justement toutes ces maisons? Enfin, c'est une seule maison d'édition, je suppose. C'est plusieurs labels.
C'est des labels qui sont indépendants, effectivement. Donc, Ototo, Ofelb, Taifu et Nihoniba sont chacun leur propre maison d'édition. Ensuite, il y a techniquement ces deux entreprises. Mais bon, ensuite, les gens ont plutôt tendance à penser en termes de maison d'édition. Et donc là, effectivement, ça fait quatre maisons d'édition différentes.
Donc c'est pas trop compliqué à gérer tout en même temps ?
Ça dépend, parce que je suis aidé notamment dans le côté community managing par une stagiaire qui s'occupe notamment d'une bonne partie de la gestion de communauté, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Mais ensuite, effectivement, 4 maisons d'édition, ça veut dire 4 plannings différents à respecter, et donc forcément, c'est beaucoup plus de contraintes à ce niveau-là. Donc effectivement, ça peut être des fois assez difficile.
Et du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu de ces quatre maisons d'édition, ce que le public visait, les mangas qui sortent
Bien sûr, du côté de Ototo, en fait, on est une maison du coup d'édition de mangas traditionnels, donc du shonen, du shoujo, du seinen, essentiellement shonen et seinen. En fait, on essaie de publier des titres qui se rapprochent autant que possible de ce qu'est la production au Japon, de ce qui est populaire au Japon, de montrer en fait justement tout ce pan de la culture populaire japonaise qui est justement populaire. On va pas mal aller aussi dans les adaptations de light novel, donc qui sont un format dont on va reparler juste après. On a des séries qui sont comme par exemple Sword Art Online, Danmachi, Overlord, on a Spice and Wolf, on a ce genre de séries qui peuvent parler à tout un tas de publics, à un public collégien autant qu'un public lycéen, autant que plus adulte. On a certains titres qui sont plus sombres, mais de manière générale, on essaye de faire en sorte de toucher justement un public aussi général que possible, tout en proposant une œuvre qui soit résolument japonaise. La deuxième maison d'édition, c'est Ofelb. Donc là, pour le coup, c'est une maison d'édition de light novel. Le light novel, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est du roman. Globalement, c'est du roman feuilletonnant, publié dans des magazines à la base, avec des illustrations. Et ensuite publié sous forme de romans qui sont un très petit format, en fait c'est plus petit que du manga au Japon. Nous on est un des précurseurs du light novel en France, on a commencé en 2015 avec Sword Art Online et Space and Wolf, et en fait on a fait en sorte que justement ce soit accessible pour le public japonais, donc on l'a remis au format français tout en gardant les spécificités du light novel, parce qu'il y a eu des tentatives dans light novel il y a des années, notamment avec Haru Izumiya, des titres dans le genre qui ont échoué parce que justement ils ne conservaient pas les caractéristiques du light novel, il n'y avait pas les illustrations, il n'y avait pas ce qu'il fallait, ce que les lecteurs attendaient. Et du coup là on cherche un compromis où ça peut parler autant à un public général qui n'est pas forcément attiré par le manga mais qui s'intéresse à la littérature éventuellement étrangère, mais aussi du coup à un public de fans qui connaissent déjà les licences, par exemple via les adaptations animées, donc avec ces œuvres là. La troisième maison d'édition, c'est Taifu Comics, c'est la plus vieille d'entre elles, sachant que Taifu Comics c'est une maison qui a évolué plusieurs fois. Il y avait une époque où elle faisait du shonen, du shoujo, du seinen. Maintenant, en fait, on s'est concentré, le côté shonen seinen est passé du coup de chez Ototo, alors que Taifu du coup est resté sur un marché qui est un peu plus de niche, mais qui a une niche extrêmement fidèle, qui est essentiellement le yaoi, le boys love, donc des mangas de romance homosexuelle entre hommes. On a aussi une collection Yuri qu'on s'efforce à faire grandir, qui est donc Taifu Yuri tout simplement, qui du coup a un compte Twitter depuis récemment, un compte Twitter et compte réseaux sociaux qui sont séparés parce que le public yaoi et le public Yuri, donc Yuri donc c'est de la littérature en l'occurrence lesbienne, effectivement les publics se recoupent assez peu. Donc voilà, du coup, ça fait qu'au sein de cette même maison d'édition, en plus je suis obligé de communiquer de deux façons différentes. Heureusement, il y a quelqu'un d'autre qui charge de la branche Taifu Yaoi, c'est pas moi qui m'en charge directement. Donc là, comme ça me laisse un petit peu le temps pour souffler. Et enfin, la dernière maison d'édition, c'est Nihoniba. C'est un label, du coup, une maison d'édition qu'on a lancée en janvier.
Ah, c'est une
Ouais, c'est tout neuf. Avant, le hentai était plutôt du côté de Taifu. Donc là encore, on l'a mis dans une maison d'édition spécifique qui puisse vraiment parler directement aux lecteurs de ce genre. Et on essaie de sortir autant que possible des titres qui sont frais, qui changent des hentai qu'on a pu voir pendant des années en France. Donc avec des titres qui ont des vraies histoires, avec des auteurs qui ont des styles que les lecteurs connaissent, avec tout un tas de caractéristiques qui font que les gens vont reconnaître les artistes, les auteurs en fait. Voir que les artistes de hentai, c'est des auteurs avant tout, et donc voir ces différents styles, ces différentes pattes qu'on peut avoir dans le hentai, et du coup on essaie de sortir justement des titres qui soient à la fois atypiques et typiques de ce qu'on peut trouver justement dans le hentai actuellement japonais.
Et du coup, pour les titres hentai que vous sortez chez Nihoniba, est-ce que c'est vous avez repris ceux qui étaient chez Taifu pour les passer directement chez Nihoniba, ou vous avez fait juste des nouveautés?
Non, à l'heure actuelle, Nihoniba, c'est 100% une collection de nouveautés.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu... j'avais fait une interview, du coup, l'année dernière. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce qui s'est passé entre la dernière Japan Expo et celle-là?
Eh ben, ce qui s'est passé entre les deux Japan Expo, hormis le lancement du coup du label Nihoniba, il y a eu eh bien le lancement d'un certain nombre de séries. Donc notamment il y a Murcielago, une série qu'on a qui était présente à Japan Expo par le biais de petits extraits qu'on distribuait aux gens, qui est depuis sortie. Donc pour la présenter rapidement, Murcielago, c'est l'histoire d'une tueuse psychopathe qui se retrouve sur la chaise électrique, parce que c'est généralement ce qu'on fait avec les tueurs psychopathes. Et là, un représentant du gouvernement japonais arrive et lui dit « Écoute, meuf, on veut bien te laisser en vie, mais à une condition, c'est que tu viennes travailler pour nous. » Et ce qu'elle va faire, du coup, elle va pas faire des crêpes, elle va traquer justement ces tueurs, et chaque tome justement va se concentrer sur un de ces meurtriers qu'elle va traquer, et à chaque fois ça s'inspire d'un style un peu différent. Il y en a qui s'inspirent du cinéma de série B, il y en a qui s'inspirent du film noir, il y en a il y a beaucoup d'humour aussi. Et c'est du coup c'est un titre vraiment atypique qui est très très stylé et qu'on a toujours plaisir à faire découvrir aux lecteurs. On a lancé d'autres séries, la plus récente et celle qui nous entoure à l'heure actuelle, même si bon là c'est de la radio donc ça va pas beaucoup se voir, c'est Ultramarine Magmel, qui est pour le coup notre premier titre non japonais, enfin à Ototo, puisque c'est un titre chinois. Donc l'auteur Dinian Miao, en fait, c'est à la base un fan de manga, en fait, tout simplement, et notamment du Jump, donc Dragon Ball, One Piece, ce genre de choses. Il en lisait quand il était gamin, du coup il s'est dit « moi je veux devenir mangaka », ce qu'il a fait. Donc il est devenu mangaka dans son propre pays, et quand il a lancé Magmel en 2014, il a été repéré par la Shueisha, qui est la société qui justement édite le Jump, et donc édite Hunter x Hunter Dragon Ball, et du coup maintenant il est publié justement dans le Jump Plus. Et du coup, c'est à la fois une belle success story et un très bon manga, parce qu'en fait, du coup, il a absorbé tous ces codes et il les a fait siens, en fait. Et donc, on trouve quelque chose qui est effectivement très inspiré par Hunter x Hunter, par ce genre de choses, des grands récits d'aventure, avec des combats avec des pouvoirs spéciaux très, très inspirés, justement. Et en même temps, sa propre personnalité, son humour, ce genre de choses. Et donc Hunter x Hunter, c'est un titre qui a un graphisme qui est assez saisissant. Et c'est le titre qu'on met en avant pour cette Japan Expo avec la venue de l'auteur, tout simplement, qui est en dédicace généralement dans la chaise dans laquelle je me tiens actuellement. Et voilà, on a lancé plein d'autres titres pour faire plus rapidement. On a lancé It's My Life, qui est une espèce de tranche de vie fantastique qui raconte la vie d'un paladin qui, à 30 ans, prend sa retraite. Vous allez me dire, en même temps, c'est les Moyen-Âge, donc l'âge de la retraite était peut-être plus bas, l'espérance de vie étant ce qu'elle est. Du coup, tout ce qu'il veut, c'est vivre dans sa petite ville, dans sa petite maison qu'il a achetée avec sa retraite, vivre tranquillement là, sauf que ça va pas durer longtemps parce qu'il y a une jeune elfe, en fait, qui va arriver là, qui va littéralement arriver par la fenêtre et qui va le foutre dans le pétrin. Et donc c'est un titre qui mélange beaucoup de choses, qui mélange de la comédie, qui mélange de la tranche de vie, qui mélange de la fantasy, qui mélange pas mal de références au métal, puisque l'autrice Imomushi Narita est une fan de métal absolue. Et donc en fait tous les titres par exemple font référence à des albums de rock ou de métal, et elle met des références partout où elle peut, dans les noms des personnages, etc. C'est très drôle. On a aussi lancé Sword Art Online Alternative Gonna Get Online, qui est un spin-off de Sword Art Online, mais qui s'adresse aussi aux gens qui n'aiment pas forcément ou qui ne connaissent pas forcément Sword Art Online, puisque ça parle d'une fille qui se retrouve qui en fait est très grande, est beaucoup trop grande par rapport aux normes japonaises, et du coup elle est un peu ostracisée, elle n'a pas beaucoup d'amis. et ça la gaffe, ça la complexe beaucoup. Et du coup, elle va découvrir que bah, y a des jeux en réalité virtuelle, dont Sword Art Online. Et elle se dit, bon, il y a effectivement eu cet incident meurtrier il y a 2 ans, mais à part ça, ça a l'air sympa. Du coup, elle va essayer plusieurs jeux, elle va en trouver un qui justement lui permet d'avoir un avatar d'une toute petite taille. Et sauf que ce jeu, c'est un jeu de tir qui s'appelle Gun Gale Online, alors que c'est pas du tout son genre de jeu à la base. Et donc elle se retrouve là-dedans, et du coup, elle a son petit personnage, et elle se dit, ah, génial, j'ai mon petit personnage, je vais pouvoir l'habiller en rose et tout. Sauf que c'est un FPS post-apocalyptique. Et du coup, en fait, elle va se retrouver bah, à essayer d'y jouer, parce que tant qu'à faire. Et il va s'avérer qu'elle adore ça, en fait, tirer sur des bonhommes, parce que voilà, ça la défoule et elle adore ça. Donc, c'est un titre qui est plein de bonne humeur aussi. Sinon, on a aussi pas mal de nouveautés du côté Taifu, mais si on en fait tout le tour, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, à la limite, je vais juste parler de quelques-uns. Là, Taifu, on lance actuellement du coup un titre qui s'appelle Madeka, d'une autrice qui s'appelle Ryo Sumiyoshi, je me trompe peut-être. C'est une autrice qui est déjà publiée en France pour un titre qui s'appelle Centaure chez Glénat, qui a un seinen assez particulier. Là, Madeka, en l'occurrence, ça parle d'un garçon qui fait un pacte faussien, qui fait un pacte avec un démon en fait pour son propre plaisir, parce qu'il a envie de manger sa chair. Voilà. Donc déjà mauvaise idée à la base. Et ça tourne mal, parce qu'au bout d'un moment, le pacte se conclut et arrive ce qui doit arriver. Donc c'est un titre qui part dans beaucoup de délire, qui est un titre à la fois d'horreur, donc ça peut plaire à des lecteurs, même pas forcément d'yaoi, parce que c'est d'un point de vue purement artistique, c'est un titre extrêmement intéressant, mais qui va vous plonger dans une ambiance, je peux pas trop en spoiler, mais c'est une ambiance vraiment extrêmement particulière, du coup Madeka, et c'est vraiment un titre que je vous invite à découvrir, même si vous n'êtes pas forcément fan de yaoi. On a aussi lancé un certain nombre de titres. On a lancé par exemple Life, qui est un one shot qui là aussi est très accessible à un public qui n'est pas forcément très orienté sur le yaoi, puisque c'est un titre en fait qui va parler de deux garçons qui vont se rencontrer au lycée, et en fait Life, comme son nom l'indique, ça va les suivre toute leur vie. Donc on va faire par petits sauts de puce, on va les voir quand ils ont 17 ans, quand ils ont 19, quand ils ont 21, on va voir l'évolution de cette relation et comment cette relation va pouvoir progresser dans la société japonaise, tu vois, parce que le mariage homosexuel n'est pas forcément permis. Donc, qu'est-ce qui va en advenir jusqu'au bout de leur vie, en fait. Et donc, c'est un titre qui est très très beau, qui est un one-shot, donc ça se finit en un seul tome, et peut être particulièrement intéressant, même si on n'est pas forcément fan de yaoi. Et alors, je vais pas vous décrire les titres hentai, parce que décrire par le plot, en fait, je peux. Puisque justement on a sorti des titres notamment qui étaient des histoires complètes. Par exemple, on a sorti Love Contest, qui est un titre où en fait le sexe est un sport national. Voilà. Et le garçon n'était pas forcément intéressé par le sport, mais la fille qui l'intéresse a rejoint le club de son lycée. Du coup, il se dit bon, il est temps d'y aller. Et donc c'est un titre comme ça qui est très délirant, d'un auteur qui s'appelle Kisaragi Gunma, qui est un auteur qui est très réputé au Japon, qui est un vétéran du genre. Donc on a plein d'autres titres chez Nihoniba. Et enfin, je vais parler d'un dernier titre qu'on a amené depuis l'année dernière, qui s'appelle Kase-san. Là en l'occurrence, c'est un Yuri. Pour le coup, la collection Yuri est en train de se relancer, et c'est notre premier titre depuis ça. Et Kase-san, ça parle de deux personnages, une fille qui s'appelle Yamada, qui est au lycée donc, et qui est très quelconque en fait, de son propre aveu. Même son nom est quelconque, parce que Yamada, c'est le Dupont japonais en fait. Son passe-temps, c'est qu'elle est au club de jardinage en gros de son lycée. Donc elle s'occupe de désherber, genre jour après jour. Hobby passionnant s'il en est. Mais quand elle fait son désherbage, elle voit à côté dans la cour, elle voit les athlètes, et notamment Kase du club d'athlétisme, qui justement est. Elle est tout le contraire d'elle. Elle est très sociable, elle est surpuissante, elle est tellement plus cool que les garçons en fait. Elle a beaucoup d'assurance, etc. Yamada va être attirée par Kase, elle va être attirée par ce que Kase a qu'elle n'a pas. Et le truc, c'est que ça marche aussi de façon réciproque, parce que Kase, elle la voyait justement faire sa tâche qui est du coup... personne ne l'en remercie, quoi. Personne ne s'en rend compte pratiquement, et elle fait ça avec une diligence incroyable. Et du coup, Kase aussi admire ça, et elles vont se rendre compte très rapidement que c'est pas que l'admiration. Et du coup, Kase-san, ça va être un titre qui va vous montrer en fait sans le dramatiser, par rapport à des titres comme par exemple Citrus, qui eux peuvent par exemple plus dans le côté drame. Cassé, lui pour le coup, il y a vraiment un côté tranche de vie romantique, c'est-à-dire que ça va être cette romance, comment elle va évoluer. Genre par exemple, elles sont dans leur dernière année de lycée, qu'est-ce qu'elles vont faire pour l'université. Et c'est une série qui va les suivre pendant plusieurs mois, pendant même plusieurs années, puisqu'on va les suivre aussi à l'université. Et donc ça va montrer aussi l'évolution de cette relation. Donc, par exemple, il y a une planche que j'aime beaucoup qui est dans le tome 3, qui n'est pas encore sorti. Dans le tome 3, on voit Yamada qui cherche sur Google qu'est-ce que les filles peuvent faire après un bisou. Et la réaction qu'elle a est géniale. Donc c'est un titre qui est très drôle, très très mignon, et que vraiment je conseille même aux gens qui aiment pas forcément le Yuri, parce que c'est pas forcément dans les mêmes genres de code et de lieux communs, j'ai envie de dire. Et donc ça peut être particulièrement intéressant à découvrir.
Et du coup, est-ce que tu as des nouveautés à apparaître prochainement, même en 2020, des grosses surprises?
Oui, mais tu ne m'as pas demandé lesquelles c'était, donc je ne suis pas obligé de répondre à ça. on a pas mal de titres qu'on va lancer. Alors là, celui dont on parle ces derniers temps, c'est The Irregular at Magic High School, qui est une série en fait de science-fiction, ce qui est plutôt rare en fait, parce qu'en fait à la base c'est un light novel qu'on édite chez Ophelb, et ça, du coup c'est un récit de science-fiction et c'est assez rare en light novel. Et en l'occurrence, ça suit un monde où la magie, c'est devenu un peu comme de la programmation. C'est-à-dire que tu ajoutes des variables, tu ajoutes des valeurs, etc. Tu rajoutes un effet différent, etc. Et du coup, la magie résulte de calculs. Donc il y a un côté assez intéressant là-dedans. Et le protagoniste, lui, il rejoint un lycée justement destiné aux élèves en magie. Et le truc, c'est que lui, il échoue à tous les tests. Parce que sa magie est absolument pas conventionnelle. Sa façon d'aborder le truc n'a absolument rien à voir avec ce que les autres font. Tu vois, les autres, ils font de la glace, ils font du feu, ils font des conneries assez basiques. Lui, il fait des trucs tellement, tellement charbés que du coup, les tests font que bah non, ça t'arrive pas à le faire. Oui, ok, mais il est super puissant d'un autre côté que les systèmes d'évaluation n'arrivent pas à relever. Et il a un historique un peu obscur, on va dire qu'il a un peu une dégaine d'agent secret. Et on va voir qu'il va très vite être emmêlé dans des complots. Donc est-ce qu'il est agent secret, est-ce qu'il l'est pas? On va voir. Mais donc en tout cas, on sort le manga, du coup ça s'appelle The Irregular at Magic High School Enrôlement, puisque c'est le premier arc de la série. C'est un arc qui est du coup fini en 4 tomes, et le premier tome il sort le 30 août. Donc voilà, pour l'instant on a les yeux rivés sur ça.
Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie.